Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. La France a ouvert ce mercredi au grand public d'importantes archives relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans jour pour jour après le début du génocide des Tutsis dans ce pays, selon une publication dans le Journal officiel. Il s'agit d'archives de l'ancien président François Mitterrand ainsi que celles de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, auquel une commission d'historiens a eu accès pour produire un rapport pointant fin mars les responsabilités de la France au Rwanda sur cette période. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été définitivement réélu à 77 ans président pour un quatrième mandat selon un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé irrecevable les recours d'opposants appelant à l'annulation du scrutin. Nous retrouverons en seconde partie de cette édition notre correspondant Arsène Séverin. La température est brusquement montée mardi à 5 jours de la présidentielle au Bénin, où des incidents ont éclaté dans plusieurs villes du centre et du nord du pays. Des manifestants ont brûlé des biens appartenant à des députés affiliés au pouvoir et bloqué des routes. Le Bénin, longtemps salué pour sa vitalité démocratique, s'apprête à vivre un scrutin inédit, alors qu'aucune figure majeure de l'opposition n'y participera. Le président sortant, Patrice Talon, élu en 2016, est accusé d'avoir verrouillé le processus pour assurer sa réélection. Le porte-parole gouvernemental Alain Urunla dénonce une tentative de déstabilisation du pays. En Guinée, assise torse nu sur la route, des femmes bloquent depuis plusieurs jours l'accès à leur village dans la région de Zérékoré, dans le sud du pays. Les femmes âgées du village de Kpachlaï, traditionnellement chargées des rites funéraires, refuse de laisser approcher les acteurs mobilisés pour stopper les possibles contagions, isoler et traiter les malades et effectuer les vaccinations selon le sous-préfet de la région, Rodrigue Collier. Les autorités tentent de lever le blocus par la négociation. Le virus mortel est réapparu en Guinée en janvier. Une personne sur trois qui a surmonté le COVID-19 a eu un diagnostic de trouble neurologique ou psychiatrique dans les 6 mois suivant l'infection, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades du COVID. L'anxiété, 17%, et les troubles de l'humeur, 14%, étaient les diagnostics les plus fréquents, selon l'étude parue mercredi dans le journal spécialisé de Lancet Psychiatry. Face à la main basse des pays riches sur les vaccins, Amnesty International a appelé mercredi la communauté internationale à corriger le tir immédiatement, s'inquiétant des conséquences de l'échec de la capacité du monde à coopérer. Dans son rapport 2020-2021, l'ONG de défense des droits humains dresse un bilan sévère d'une année chamboulée par la pandémie, chacun pour soi, généralisé, pénalisant les plus fragiles et aggravant les inégalités, mais aussi accentuation de la répression dans certains pays sous des motifs sanitaires. Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie post-pandémie. Le gouverneur de Californie a annoncé mardi rouvrir totalement son État le 15 juin grâce à la campagne de vaccination menée tambour battant et à laquelle le nouveau président américain Joe Biden a donné un nouveau coup d'accélérateur. Selon M. Biden, l'ensemble de la population adulte du pays serait éligible à la vaccination contre le coronavirus à compter du 19 avril, soit plus tôt qu'annoncé initialement. Mais il a prévenu qu'il y avait toujours une course contre la montre face à la crise sanitaire. Les États-Unis et l'Iran ont tous deux qualifié de constructives les discussions indirectes ouvertes mardi à Vienne pour tenter de sauver l'accord international sur le nucléaire iranien. La suite de nos informations. Les États-Unis ont réclamé hier aux autorités du Mali un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral, tandis que l'ONU affichait son pessimisme quant à une amélioration à court terme de la situation sécuritaire dans ce pays. Claire Morin-Gibourg.
Nous devons nous assurer que des élections libres et équitables se déroulent à temps, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité consacrée au dossier malien, ajoutant qu'il s'agissait d'une priorité absolue.
Des élections sont en principe prévues début 2022 au terme d'une période de transition de 18 mois, ayant suivi le coup d'état militaire d'août 2020, mais aucune date précise n'a encore été annoncée.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a lui aussi souligné l'importance d'un processus électoral mené dans les temps, tout en encourageant les acteurs politiques maliens à travailler dans un esprit de compromis. Pour lui, ces élections représentent le test décisif de la transition actuelle et une étape nécessaire vers le retour du Mali à la règle constitutionnelle.
La nouvelle présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a prononcé hier un discours de rupture vis-à-vis de son prédécesseur John Magufuli lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux membres du gouvernement à Dar es Salaam. Nathalie Barge.
Samia Suluhu Hassan a abordé la question de la pandémie d'un point de vue scientifique, déclarant qu'il fallait s'en tenir aux conclusions de la recherche et qu'elle allait créer un comité d'experts chargé de faire la synthèse des connaissances mondiales pour conseiller le gouvernement. La Tanzanie n'a pas publié de statistiques sur l'épidémie depuis avril 2020. L'ancien président feu John Magufuli s'en remettait aux prières pour vaincre le virus et affirmer que les vaccins étaient dangereux. Tout en admettant qu'il ne s'agit pas de tout accepter aveuglément, Madame Hassan a souligné qu'il n'est pas question non plus de s'isoler du monde en ce qui concerne la manière de gérer la crise sanitaire. La présidente a par ailleurs ordonné d'examiner la législation sur les investissements étrangers pour regagner la confiance de ces derniers. Elle a aussi ordonné la réouverture des médias qui ont été interdits, soulignant que les autorités ne devaient pas recourir à la force contre la presse.
Les autorités libyennes ont annoncé la création d'une commission de réconciliation nationale chargée de rétablir la paix sociale dans ce pays. Une décision saluée par l'ONU. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un communiqué, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Jean Koubis, s'est félicité de l'annonce par le Conseil présidentiel de la création d'une haute commission de réconciliation nationale. Cette commission sera chargée de jeter les bases d'un processus de réconciliation nationale pour promouvoir l'unité, la tolérance, la justice et les droits de l'homme, selon la mission des Nations Unies en Libye. Selon M. Koubis, il s'agira d'instaurer un processus de réconciliation inclusif dans le respect des droits humains pour garantir une paix, une unité et une prospérité durable. Les équipes de cette commission travailleront sur le terrain dans les villes qui ont été le théâtre d'opérations militaires. L'ONU s'est dit prête à soutenir les autorités libyennes dans ce sens. La Libye tente de mettre fin à une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. Le Conseil présidentiel, composé de 3 membres, a été désigné en février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève qui ont choisi Abdelhamid Deba comme chef du gouvernement d'unité nationale. Ils devront conduire le pays à des élections présidentielles et législatives en décembre prochain.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Fonds monétaire international a approuvé une troisième tranche de subvention pour l'allègement du service de la dette de 28 pays, dont 22 africains, dans le cadre du programme de maîtrise des catastrophes et de secours fiduciaires. Sont notamment concernés le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, la RDC, la Guinée, le Niger, le Tchad et le Togo. Cette nouvelle approbation permet le décaissement de 238 millions de dollars. L'Algérie a fait don de 58 tonnes de produits alimentaires au Niger. L'aide intervient à la suite d'un entretien téléphonique entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et nigérien Mohamed Bazoum. La communauté musulmane entame le mois de Ramadan le 13 avril. Cette aide sera mise à contribution pour faciliter le jeûne des populations nécessiteuses en vue de garantir convenablement la rupture du jeûne. Le colloque international dédié aux états généraux de l'éco, future monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO, se tiendra du 26 au 28 mai à Lomé au Togo. C'est l'initiative de plusieurs économistes pilotée par Kako Nabukpo, conseiller spécial du président de la commission de l'UMOA, qui travaille sur la question monétaire des états depuis 20 ans. L'idée sur ces états généraux a germé peu à peu après l'annonce de la réforme du franc CFA en décembre 2019 à Abidjan.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Qui succédera au Nigérian Victor Osimhen, lauréat en 2020 du prix Marc Vivien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain de l'année dans le championnat français de première division? 11 joueurs sont en lice, le Sénégalais Boulaye Dia de Reims, l'Ivoirien Seko Fofana de Lens, le Sénégalais Idrissa Gueye du PSG, le Congolais Gaël Kakuta de Lens, le Camerounais Karl Toko Ekambi de Lyon, le Zimbabwéen Tino Kadewere de Lyon, le Mozambicain Reynildo de Lille, le Marocain Nayed Aguerd de Rennes, les Algériens Farid Boulaye et Alexandre Oukidja de Metz, Indy Delors de Montpellier. Le trio final sera annoncé le 29 avril. L'autorité nationale française des jeux a annoncé hier avoir interdit les paris en France concernant un match de championnat de Ligue 1 tunisienne qui doit opposer demain le club de Ben Gherdan au stade tunisien. Elle n'a pas donné de raison à cette décision publiée sur son site internet. Des soupçons de trucage de match ont visé plusieurs fois l'US Ben Gherdan. La fédération tunisienne a demandé une enquête après une rencontre de Ligue 2 le 29 mars entre l'Avenir sportif de Mohamedia et l'Étoile sportive de Rades, dont le score final de 7-7 a éveillé des soupçons, en particulier les 12 buts marqués pendant la seconde mi-temps. Ligue des champions ce soir en Europe. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en quart de finale aller sans son attaquant Mauro Icardi ni son défenseur Levin Kirzawa, blessé. Autres absents, Marco Verratti et Alessandro Florenzi pour cause de Covid-19, ainsi que Leandro Paredes suspendu. Le second quart de finale opposera le FC Porto du Malien Moussa Mariga à Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy et du Marocain Hakim Ziyech. Hier, le Real Madrid a puni la défense fébrile de Liverpool 3-1 à Madrid. Liverpool a coulé sous les coups de Marco Asensio et Vinicius Junior, auteur d'un doublé. Les Reds ont préservé une petite chance de qualification avec le quatrième but en 4 matchs de Ligue des Champions de l'Égyptien Mohamed Salah. De son côté, Manchester City s'est fait peur à domicile devant Dortmund, battu 2-1. Au Brésil, le légendaire stade Maracana de Rio de Janeiro ne sera pas rebaptisé Stade Roi Pelé. L'Assemblée législative locale ayant abandonné hier un projet de loi controversé approuvé il y a un mois, le président de l'Assemblée législative de l'État de Rio, André Ceciliano, a annoncé qu'il demanderait au gouverneur Claudio Castro de ne pas promulguer la loi qui prévoyait le changement de nom. Ce projet de loi approuvé par Ceciliano le 9 mars est fortement critiqué de nombreux Brésiliens jugeant ce débat inopportun.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, à votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle, sans surprise, a confirmé la victoire du président Denis Sassou Nguesso, qui était déjà proclamé élu par le ministre de l'Intérieur avec plus de 88% des voix. Sa victoire a été contestée par un candidat et deux citoyens. Ils ont tous été déboutés par la Cour. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'audience s'est déroulée dans la sérénité. Plus de 3 heures de discussion et de plaidoirie. Les avocats et les plaignants eux-mêmes ont déversé leurs arguments, notamment le citoyen Christian Mozoma, cet enseignant d'école primaire qui demandait l'annulation du scrutin. « C'est inhumain de proclamer les résultats sans se soucier du candidat décédé », a-t-il lancé devant la cour. Mais ni lui, ni Jean-Jacques Serge Yomi-Opango, l'allié de Parfait Kolela, encore moins Mathias Nzon, n'ont convaincu le juge. Deux recours ont été jugés irrécevables et le troisième a été rejeté. Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle, résume le verdict de l'audience en ces termes.
« Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 1 539 725 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour de l'élection du président de la République, scrutin des 17 et 21 mars 2021, est déclaré élu président de la République.
Dans les couloirs de la cour, les avocats continuent leur discussion. Pour maître Philippe Esso, l'avocat de Yomi Opango qui plaidait pour l'annulation du scrutin suite au décès de Kolela, le problème reste entier.
Vous avez suivi la cour qui a prononcé les résultats. On a cité les résultats obtenus par Kolela. Mais le problème que nous avons posé à la cour reste entier. Kolela décédé, il perd sa personnalité juridique. Donc, il perd son statut de candidat. Est-ce qu'on peut prononcer les résultats d'un défunt, d'une personne qui n'est plus candidat ? Le problème reste entier.
Dans le camp Sassou Nguesso, le bâtonnier Emmanuel Oko peut se satisfaire malgré les corrections de chiffres apportées par le juge.
Vous savez, les petites erreurs ne manquent pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc ça s'explique, c'est normal. Ben, c'est plus ou moins aussi la même chose. Hein. Il n'y a que quelques poussières de virgule. Hein. Au départ, c'était 88,57. Là, c'est 88,40. Ben, c'est plus ou moins la même chose. Donc la Cour a fait une petite rectification de la partie décimale. OK.
Les décisions de la Cour constitutionnelle étant sans recours, Denis Sassou Nguesso, le président élu, sera investi en début de semaine prochaine, selon les prévisions. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Soulagement pour la presse en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné la réouverture des médias fermés sous son prédécesseur John Magufuli, décédé le mois dernier. Dans une autre rupture avec ce dernier, la présidente Hassan a assuré que son pays suivra désormais les procédures scientifiques dans sa réponse à la pandémie de COVID-19. Reportage de Charles Kombe à Dar es Salaam, récit de Lionel Gahima.
La présidente tanzanienne s'est exprimée sur ces dossiers mardi, lors d'une cérémonie de prestation de serment des nouveaux secrétaires permanents du gouvernement. Elle a ordonné la levée d'une mesure ayant fermé certains médias sous la précédente administration.
Nasikia kuna vijivyombo vya habari huko mlivifungia fungia, sijui vijitivi vya mikononi vile.
J'ai appris que vous avez révoqué les licences de certains médias, y compris des chaînes de télévision en ligne. Levez la mesure, mais dites-leur de respecter la loi. Ne leur donnons pas l'occasion de dire que nous limitons la liberté de la presse.
Ces dernières années, certains groupes de presse ont été fermés pendant de longues périodes pour avoir diffusé des informations ayant déplu au gouvernement de Magufuli. Les journalistes tanzaniens espèrent que les propos de la présidente Hassan aboutiront à des réelles réformes. Ibrahim Chawe travaille pour Minani Media, un groupe appartenant à l'administration locale.
Nimeipokea kwa matumaini makubwa sana na pengine unaweza ukawa ni mwanzo mzuri kwa uhuru.
J'ai appris cette nouvelle avec le grand espoir d'un bon début pour la liberté de la presse et la liberté d'expression en Tanzanie. La présidente a dit de respecter la loi, mais si vous voyez les lois ou régulations, elles sont encore répressives. La réouverture de la presse doit être l'occasion d'introduire de nouvelles lois et réglementations pour instaurer une liberté totale.
Plus optimiste, Salomé Kitomari, représentante en Tanzanie de l'Institut des médias d'Afrique australe, la liberté de la presse est pour bientôt.
C'est un nouvel espoir, car nous savons que certains médias suspendus étaient accusés de violation de la loi et des réglementations. Nous pensons qu'avec la déclaration de la présidente, nous aurons la liberté de remplir nos devoirs dans le respect des lois et réglementations.
Sur un autre plan, la présidente Hassan a annoncé son intention de mettre sur pied une commission spéciale pour conseiller le gouvernement concernant la lutte contre le nouveau coronavirus. Le défunt président John Magufuli niait le problème du COVID-19 dans son pays et remettait en cause l'efficacité des vaccins. Il avait même proposé des traitements alternatifs contre la maladie.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Nil, source de tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les négociations entre les trois pays ont repris à Kinshasa pour tenter de résoudre la crise née de la construction par l'Éthiopie d'un grand barrage que l'Égypte et le Soudan considèrent comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi met en garde contre une instabilité inimaginable dans la région. Comment résoudre cette crise du Nil? La médiation du président Tshisekedi a-t-elle des chances de réussite? Qu'en est-il des autres pays que le Nil traverse? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Tunisie, la plupart des jeunes médecins rêvent de faire carrière hors du pays, faute de salaire suffisant pour subvenir à leurs besoins. Les pays du Golfe attirent surtout ces jeunes diplômés formés par l'État tunisien en leur offrant de meilleures conditions salariales. Yacouba Ouedraogo.
Abdel Waheb, médecin urgentiste sur le front contre le COVID-19 en Tunisie, n'a pas été payé depuis des mois. À 35 ans, il se prépare à partir à l'étranger en quête de meilleures conditions de travail, comme la majorité des médecins tunisiens.
J'essaie d'émigrer hors de Tunisie. Pourquoi ? Parce que la situation générale en Tunisie n'est pas stable économiquement, socialement et politiquement. Actuellement, le pays peut payer des salaires, mais dans 6 mois, 1 an, on ne sait pas.
Marié depuis 5 ans, Abdel Waheb se prive d'avoir des enfants, estimant ne pas avoir les moyens d'assumer cette responsabilité. Un médecin interne touche 1200 dinars, environ 365 euros par mois. C'est au-dessus du salaire moyen, mais tout juste la moitié du budget minimum nécessaire à une famille avec 2 adultes et 2 enfants pour vivre dignement, selon une étude récente des ONG et un institut de recherche. Abdel Waheb Djirbi, médecin urgentiste.
On m'a proposé un emploi dans un pays du Golfe avec un salaire 10 fois supérieur à mon salaire en Tunisie. Et les moyens dans le domaine de la santé se développent fortement dans les pays du Golfe.
La proportion des jeunes diplômés s'exilant à la fin de leurs études, principalement vers la France, l'Allemagne ou les pays du Golfe, ne cesse d'augmenter. Le Conseil de l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme sur le vieillissement des médecins dans le service public. Slim Ben Salah est le président de l'Ordre national des médecins.
Déjà, 2018, on n'était pas loin des 60% de départ. Et fin 2020, pratiquement, on n'est pas loin des 80% des jeunes diplômés qui sont en train de partir.
La Tunisie continue de former chaque année 800 médecins dont les compétences sont reconnues à l'international. Mais les infrastructures sont dégradées, le matériel et les médicaments manquent. Et les effectifs sont parfois insuffisants. Slim Ben Salah, président de l'Ordre national des médecins.
Les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas de moyens. Le budget de la santé, c'est à peine 6% du PIB. Ça a diminué.
Une étude publiée en 2020 par un jeune doctorant en médecine souligne que l'exode de compétences touche tout type de médecins et cadres paramédicaux. À la Direction générale de la Santé, les autorités relativisent. Faisal Ben Salah, directeur général de la Santé.
Que nos diplômés migrent à l'étranger, on peut le considérer que ça rentre dans une approche macroéconomique du pays d'exportation des services.
D'après le docteur Salah, le coût total de formation des médecins s'élève à plus de 46 000 euros. Selon le syndicat des médecins, les pays embauchant les médecins tunisiens profitent gratuitement d'un capital humain très qualifié.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La petite ville de Donna, près de la frontière entre le Texas et le Mexique, où de nombreux enfants et familles de migrants sont reçus, retient l'attention des médias dans le récent débat sur l'immigration. Reportage d'Elisabeth Lee de VOA, relaté par Nathalie Barge.
Joshua Rojas a grandi à Donna et se souvient quand ce quartier n'était qu'une terre agricole.
Nous vivons dans une petite caravane de 20 pieds ici même et nous étions très pauvres. Je me souviens que nous n'avions pas d'électricité, elle avait été coupée.
Le père de Joshua, un immigrant du Mexique, a construit cette maison au fil du temps. Joshua a été l'un des premiers de sa famille à fréquenter l'université. Il a maintenant un bon travail et possède des propriétés locatives. L'installation de traitement des migrants au sud de la ville est une aubaine pour ses affaires.
Quand les agents de la patrouille frontalière doivent venir ici, quand les entrepreneurs doivent venir ici, cela me profite. Mais Airbnb se remplissent, c'est ce qui se passe en ce moment vraiment. Je n'ai rien vu de tel.
Ouverte en février, cette installation a mis Donna sous les projecteurs. Alors que les États-Unis voient une vague de migrants d'Amérique centrale, y compris des enfants non accompagnés qui traversent la frontière. La boulangerie de Daniel Rocha n'a pas pour autant repris et lui se dit gêné par l'attention que l'on porte à sa ville habituellement calme.
Cela apporte une vue négative sur la petite ville. Cela montre que nous ne pouvons pas gérer la frontière et comment nous traitons les enfants. Je ne blâme pas ce président ou l'ancien, c'est juste notre système d'immigration qui n'a pas été mis à jour. Le blâme est sur le Congrès. C'est au Congrès de s'occuper de la frontière.
Pendant des années, républicains et démocrates au Congrès n'ont pas été en mesure de s'entendre sur la réforme de l'immigration. Les habitants de Donna disent que les politiciens de Washington ne savent pas ce que c'est que de vivre ici, surtout pendant une pandémie.
Tous ceux qui n'ont pas de diplôme et d'emploi dans la fonction publique sont en difficulté. J'ai un ami qui possède une entreprise d'aménagement paysager. Les pelouses et des choses comme ça. Les illégaux viendront et le feront pour moins cher.
Néri Curiel connaît de nombreux sans-papiers dans son quartier. Elle estime que pour eux, la vie aux États-Unis n'a pas été facile.
Ils ont des difficultés parce que leur travail est instable et parfois les entrepreneurs en abusent aussi en raison de leur statut. Ils finissent par ne pas payer leur salaire. Ils sont attaqués pour de nombreuses raisons.
Pour cette habitante de Donna, l'administration Biden envoie des messages contradictoires aux migrants.
Les gens voient que cette administration a dit qu'ils seraient les bienvenus, mais on leur dit maintenant de rester dans leur pays. Je pense qu'on devrait d'abord donner la priorité à ceux qui sont déjà ici et ensuite ouvrir les bras à ceux qui veulent venir ici.
Daniel Rocha pense, quant à lui, que les personnes qui traversent la frontière sans passer par la procédure légale ne devraient pas être récompensées.
Je comprends, ils ont besoin d'asile, mais il y a un moyen de le faire. J'ai fait venir mon épouse du Mexique de la bonne manière. Cela m'a pris du temps, mais je l'ai fait.
Selon un sondage de l'Associated Press Knox Center for Public Affairs Research, 59% des Américains disent que fournir un traitement sûr aux enfants non accompagnés devrait être une priorité et 53% pensent que l'amélioration de la sécurité à la frontière est également prioritaire.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Edressa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.